puisque l'on va parler de culture. Sans rapport avec ce qui vient d'être dit sur l'humour politique, voici un peu de Jack Lang.
Si on veut gagner les batailles contre la dépression, contre le chômage, pour la réanimation économique du pays, il faut avoir confiance en soi-même. Et il faut que les forces de vie, toutes les forces de vie, les forces de l'intelligence, les forces de la joie, les forces de l'expression, se mettent en branle. Au fond, la vie c'est un tout. Et l'économie et la culture c'est un tout. Ce n'est pas en pleurant et en gémissant qu'on gagne les batailles économiques. C'est au contraire en croyant en nous-mêmes et en croyant aux forces extraordinaires d'un pays comme la France.
Voilà, nous croyons dans les forces extraordinaires de notre pays et c'est la raison pour laquelle nous évoquons la culture. Nous avons beaucoup parlé de ce que le public pouvait faire pour la culture en venant dans différents établissements, en pratiquant une activité culturelle. On va voir maintenant comment la culture peut aller vers ses publics en votre compagnie, Laurence Angèle. Vous présidez la BNF et vous avez publié « Que peut la culture ?» aux éditions Bartilla. À côté de vous, José Manuel Gonçalves, directeur du 104 et directeur artistique et culturel du Grand Paris Express. Votre point de vue, José Manuel Gonçalves, sur la manière dont la culture peut aller vers les publics maintenant.
Je pense que il y a des ressources qui sont aujourd'hui peu exploitées, on va dire dans tous les établissements. Laurence l'a rappelé tout à l'heure, on a énormément d'établissements. Aujourd'hui, ces établissements, ils fonctionnent sur à partir de contenus dont ils disposent et qu'ils mettent à disposition du public sur des horaires précis. Mais ils disposent aussi de bâtiments. Et ces bâtiments ne sont pas utilisés quand ces contenus ne sont pas mis en œuvre pour les publics. Ce qui veut dire qu'on a, en gros, non pas des établissements délaissés, mais on a du temps délaissé dans ces établissements. Et l'une des questions qui peut se poser, quand on veut gagner du public, c'est qu'on doit tout d'abord gagner de la ville, on doit gagner de la population, on doit faire en sorte que cette population puisse accéder dans ces espaces, avant même peut-être d'accéder au contenu de ces espaces. Parce que ces espaces représentent une force symbolique dans l'espace public extrêmement fort. Donc l'une des possibilités, c'est comment faire pour rendre ces établissements, en dehors de l'accès à ces contenus, disponibles au public, disponibles à la ville. Faire entrer la ville et les gens qui composent la ville, donc indifféremment, je dirais, de toute opinion et de tout désir, même culturel, et les laisser entrer pour qu'au fond, ils puissent imaginer eux-mêmes quel rapport ils peuvent avoir dans ces établissements avec les contenus.
Mais alors ça, comment vous y êtes pris, par exemple, pour le 104, qui est situé, pour ceux qui ne connaissent pas l'établissement, dans un lieu qui est plutôt hors des zones traditionnelles de la culture, dans un quartier plutôt populaire de Paris.
Ah, c'est pareil, c'est un peu une idée reçue aujourd'hui avec la fréquentation du 104. On est dans les fréquentations au plus haut des établissements nationaux. Donc ça veut dire que le public, lui, alors c'est déjà une question qu'on peut se renvoyer, le public, lui, visiblement, l'a identifié et peut-être pas, effectivement, les élites qui sont majoritairement dans des temps extrêmement précis. Mais la population.
Ça n'était pas le cas au départ. C'est d'ailleurs, je crois, pour ça qu'on vous a fait venir.
C'est maintenant tellement, tellement loin que on se souvient que d'une chose, c'est de ce qui existe aujourd'hui. Non, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a on a passé plus de temps avec du public que du temps sans public. Ça a été deux années un peu compliquées. Depuis, il y a huit années un peu différentes. Bah, tout simplement, encore une fois, en ne conditionnant pas l'accès à un établissement, à l'accès au lieu. Il faut dissocier cette question-là. Ça veut dire quoi, très concrètement? Vous êtes dans un hall, vous avez un hall de théâtre. La plupart des établissements, et notamment des grands établissements, disposent d'espaces qui sont des espaces dits d'accueil. Ces espaces d'accueil sont, comme son nom l'indique, un accueil pour aller vers les contenus. Mais pourquoi ces espaces d'accueil ne seraient pas des espaces d'accueil, de la population, de ceux qui sont dans la ville et qui ont envie à un moment de disposer d'un espace pour pouvoir pratiquer une activité d'ailleurs aussi culturelle, mais qu'au fond ils puissent eux-mêmes l'inventer. Aujourd'hui, ça, on ne sait pas le faire. En gros, on ouvre un établissement au moment où le contenu est disponible. Si on ouvrait l'établissement avant que le contenu soit disponible pour le mettre à disposition de la population, c'est un gain en heures d'activité pour une population, un gain considérable et pas avec des moyens économiques forcément très importants.
Laurence Angèle, pour la question des bibliothèques, celle que vous présidez, autrement dit la BNF, pour les autres bibliothèques, puisque parmi les projets dont il est beaucoup question, il y a l'ouverture des bibliothèques le dimanche. Ce n'est pas un projet simple, il faut peut-être rappeler également quelle est la manière dont la France à un réseau de bibliothèques organisé et dirigé, non pas par le ministère de la Culture, mais par les régions. Bref, comment ça fonctionne et qu'est-ce que l'on peut attendre dans ce domaine, Laurence Angèle?
Alors, la question de l'ouverture, c'est effectivement une question qui est importante. Il faut que les établissements soient rendus accessibles. La bibliothèque, c'est un lieu assez particulier, parce que c'est, on dit d'ailleurs traditionnellement que c'est la première porte d'entrée vers la culture, pour une raison, je pense, assez simple, c'est que c'est précisément un endroit où on vient pour soi-même. On ne vient pas forcément attendre une offre qui a été pensée par d'autres. Elle l'a été en réalité, parce que quand on achète des livres pour constituer une collection mise à disposition, il y a quelqu'un qui se demande qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais mettre en avant, qu'est-ce que je vais proposer. Mais les visiteurs des bibliothèques, ce qu'on appelle les usagers des bibliothèques, sont actifs. Ils viennent pour travailler, pour lire, pour faire quelque chose, pour préparer les devoirs, pour préparer sa thèse quand on est un grand élève. On n'est pas seulement spectateur, on n'est pas seulement là pour admirer quelque chose qui aurait été conçu pour nous. Donc il y a une relation très particulière et je pense que c'est pour ça que ces bibliothèques sont la première porte d'entrée, parce qu'on y vient tout simplement précisément parce que c'est un endroit où il fait chaud, où on peut s'asseoir, où on s'occupe de nous, où on nous propose tout ce qu'on n'a pas forcément chez soi. Et donc, évidemment, dans ces établissements-là, plus on ouvre et plus les gens viennent tout simplement. Donc, et par ailleurs, dans notre pays qui a donc déployé cette glorieuse, je ne vais pas parler, une glorieuse politique culturelle, vous nous avez fait entendre.
On a entendu du Jack Lang,
donc là, on est dans ce moment. Il a raison, hein, ça donne beaucoup de fierté, et la fierté, le symbole, en économie aussi, il n'est pas le premier à le dire, Keynes l'a dit avant lui, c'est un facteur extrêmement important. Mais donc on a créé beaucoup de théâtres, beaucoup d'institutions culturelles. Paradoxalement, ces établissements du quotidien, de la pratique culturelle, du premier besoin de tout un chacun, c'est pas l'endroit, c'est pas le lieu où on est le plus fort en France. Il y a moins de bibliothèques, moins de places de bibliothèques que dans bien d'autres pays, et notamment en Allemagne, en Angleterre, dans d'autres pays où on n'a pas insisté sur l'importance de la politique culturelle, mais où on a fait. Et donc cette question de l'ouverture des bibliothèques le dimanche est très importante, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas travailler chez eux, et notamment beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas travailler chez eux, qui ont besoin d'espace tout simplement pour se cultiver.
Même si les investissements, parce que c'est quand même utile de ramener non pas ce budget de la culture, parce que le 1% il paraît un peu abstrait, et si l'on essayait de le ramener par habitant, ça ferait une somme d'environ 150 euros par Français et par an.
C'est pas énorme, oui.
Alors, c'est pas énorme, mais il faut aussi se livrer à quelques comparaisons internationales. Et ça va à, donc, disons, de 60 à 70 euros pour des pays du Sud, à 300-350 euros pour les pays du Nord. Là, malheureusement, les stéréotypes sont vérifiés dans les faits. On voit donc qu'on a affaire malgré tout à des montants qui existent, qui pourraient être plus importants en France. S'ils étaient plus importants, Laurence Angèle, est-ce qu'ils trouveraient naturellement des débouchés? Est-ce que on aurait donc une manière, en se servant par exemple de la politique culturelle menée dans les pays du Nord, eh bien des pistes qui pourraient être suivies en France?
En tout cas, ma conviction, c'est que précisément, il faut se préoccuper de ces institutions qu'on appelle de proximité dans notre jargon, celles qui sont ces premières portes d'entrée vers la culture. Donc oui, davantage de bibliothèques, davantage de places de bibliothèques. Il n'y a pas assez de places de bibliothèques en France. C'est quelque chose qui est bien connu par comparaison. Et pas nécessairement davantage de même si on apprécie tous le fait de pouvoir aller au théâtre, mais pas davantage forcément de théâtre ou de musée, parce que là, on a une offre, puisque c'est une politique de l'offre qui est exceptionnel en France. Enfin, vraiment, il faut aussi le dire, le savoir, dire, comme l'a rappelé José Manuel, que ces endroits ne sont pas vides de public, qu'ils trouvent leur public, qu'il y a de plus en plus de monde qui vient dans les théâtres, dans les musées. Mais on a le résultat de ces investissements consacrés pendant 30 ou 40 ans à cette politique. On manque de lieux de proximité, et c'est sans doute là qu'il faut insister, parce que c'est là qu'on trouve le plus facilement cette relation entre l'œuvre, entre les artistes, entre les productions artistiques et le public qu'on a envie de voir plus diversifié.
José Emmanuel Gonsalves, justement sur ce public diversifié, parce que vous avez raison, les fréquentations, les taux de fréquentation sont peuvent être considérés comme satisfaisants. En revanche, on voit bien qu'on a affaire à des arts qui sont plus ou moins démocratisables, ou en tout cas démocratisés. Je voyais par exemple pour l'opéra, on a effectivement un art qui est extrêmement classant, comme on dit. C'est moitié moins vrai pour le théâtre, mais ça l'est encore, et ça l'est évidemment moins pour des spectacles comme le cirque, par exemple. On voit bien qu'on a beaucoup de difficultés, je ne sais pas ce que font les autres pays en la matière, mais beaucoup de difficultés, malgré tout, à démocratiser les différentes formes d'art hors public scolaire, et peut-être que le public scolaire est justement quelque chose que l'on peut travailler là-dessus. Votre sentiment, José Emmanuel?
Alors, la particularité du 104, c'est qu'on travaille avec le public scolaire, mais nous n'avons pas de programmation jeune public, puisque nous travaillons essentiellement sur les familles, donc sur les pratiques du soir, parce que, encore une fois, je crois que dans la pratique culturelle, et non pas dans la pratique artistique, c'est encore deux choses différentes. La pratique culturelle, ça passe tout d'abord par la familiarité avec un établissement qui a un fort symbole sur un territoire, qui est un théâtre, une bibliothèque, notamment pour les populations qui sont, comme on dit, éloignées de la culture. Ces établissements ont un impact extrêmement fort sur le territoire. Et au fond, tous les établissements, qu'ils soient nationaux ou locaux, peuvent devenir des établissements, et a fortiori des établissements locaux, peuvent devenir des établissements locaux. Ça renvoie encore une fois à ce que je disais précédemment, indépendamment de la question du contenu, la question d'être au fond un abri dans la ville, un abri esthétique, mais avec une charge symbolique extrêmement forte, permet au fond de dépasser un petit peu les représentations, au fond que l'on soit l'élite, et a fortiori quand on est une population éloignée. Donc cette question qui est celle dans les pratiques, en France au fond, quand on veut s'intéresser à un public, on met en place un certain nombre de pratiques qui sont au fond des pratiques pédagogiques, et ces pratiques pédagogiques correspondent encore une fois à une offre pédagogique. La question qui peut se poser, c'est comment fait-on pour accueillir au fond une demande que nous ne connaissons pas forcément de ces populations, et comment on offre un espace pour que ces populations puissent exprimer leurs demandes, et que cette demande à un moment puisse s'exprimer dans ces espaces qui sont à forte charge symbolique. C'est toute la question des espaces publics. Encore une fois, dans les établissements, tous les établissements au fond sont des établissements potentiellement de proximité. Quand on dit théâtre national, un théâtre national, quand il ouvre, il va ouvrir 2 heures avant la représentation, il peut tout à fait ouvrir 12 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures avant la représentation, pour offrir cet espace à la population. Un espace, il est toujours en proximité avec une population. Et donc ça, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des temps délaissés, dans des espaces qui sont des espaces délaissés, avec pour autant des contenus.
Et puis maintenant, il y a la culture hors les murs. Vous en parlez, Laurence Angèle, dans votre ouvrage « Que peut la culture ?». Il y a notamment le numérique. Qu'est-ce que l'on peut espérer du numérique pour aller vers les publics, sans qu'il y ait d'ailleurs besoin d'institutions, en tout cas de lieux d'accueil?
L'enjeu du numérique, c'est pas seulement le fait qu'il constitue, on parle de site internet, donc il constitue un autre site, une autre manière de diffuser telle ou telle œuvre ou tel ou tel projet. L'enjeu en termes de politique publique, parce qu'on parle de cela, quel est le rôle, c'est pas seulement que peut la culture en général, mais que peut une action publique pour ce secteur d'activité, c'est aussi de prendre en compte le fait que la création, les modes de création ont changé, que donc les modes de financement de la création ont changé, que les modes de diffusion ont changé, et donc il faut s'adapter à cette technologie nécessairement, parce que sinon on disparaît. Alors bon, moi je préside la Bibliothèque nationale, c'est un des exemples très forts qui permet de comprendre comment un établissement qui est extrêmement, alors qui est d'abord très ancien, donc qui est conçu comme un lieu patrimonial par excellence, classique, dans toute sa puissance symbolique qu'on évoquait, mais qui est aussi un outil technique d'accès au savoir, a su évidemment, je dis évidemment parce que s'il ne l'avait pas fait, il n'existerait plus, s'adapter totalement au numérique.
C'est-à-dire il y a notamment, juste pour le dire aux auditeurs, ceux qui l'ignoreraient, il y a Gallica qui est par exemple un...
Il y a une bibliothèque numérique qui donne accès à quelques 4,5 millions millions de documents, livres, photos, estampes, musique, voilà, toutes sortes de documents.
À la fois sous leur forme originale pour certains, et sous leur forme usuelle pour d'autres. Oui. Et donc, c'est la possibilité donc, pour tout un chacun d'avoir accès à des choses qui étaient jadis réservées à des chercheurs.
Mais plus profondément encore, et ce qui est moins visible profondément parce que ça ne se voit pas, ça ne se voit pas à l'œil nu, je dirais, c'est en profondeur que la BNF a appris à maîtriser la technologie numérique. Une bibliothèque, c'est un instrument d'organisation des savoirs. Ça se faisait classiquement par les petites fiches qu'on allait regarder quand on était jeune dans les fichiers, dans les catalogues des bibliothèques. Aujourd'hui, tout cela est numérisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à l'échelle de l'espace virtuel qu'est le numérique et donc à l'échelle mondiale, l'organisation des savoirs se fait de manière numérique et on produit comme toutes les entreprises technologiques aujourd'hui, des données qui sont réutilisées, qui nous permettent de, lorsqu'on va chercher sur Google, d'accéder à des informations grâce, pas seulement à ce qu'on a numérisé, mais au travail d'organisation des savoirs qui est produit par les bibliothèques. Voilà, donc cela, personne ne peut le faire. Personne ne le fait nulle part, dans aucun pays, si ce n'est la puissance publique, parce que il n'y a pas de rentabilité à cette production d'informations qui va permettre à tout un chacun d'accéder librement à des savoirs les plus larges possibles. Il faut le prendre en charge, et ça, par exemple, c'est un axe nécessaire de développement d'une politique publique.
José Emmanuel Gonsalves, est-ce que le numérique constitue une véritable concurrence pour les lieux de spectacle vivants ? On voit en fait que les deux sphères coexistent assez bien. Comment vous, par exemple, avec le 104, vous envisagez la chose ?
Alors tout d'abord, tout d'abord, on élabore des contenus. Ces contenus, au fond, permettent d'accéder et d'établir une relation via les réseaux sociaux avec certains publics avec lesquels on a du mal à établir parfois des contacts. Et ça permet aussi à ces publics. Les publics qui ne trouveraient pas à un moment donné le contenu qu'ils voudraient avoir. Par exemple, le 104 apparaît souvent comme un endroit où les pratiques urbaines sont très fortes. Elles le sont effectivement très représentées dans l'espace public, moins dans la programmation. Parce que dans la programmation, il y a un rôle d'éditeur. Et là, on trouve moins...
Culture urbaine, par exemple, qu'est-ce que l'on peut trouver
voilà, hip-hop ou rap. On en trouve, mais beaucoup moins, au fond, que l'ensemble de la programmation. Là, ce qu'on peut faire aussi en retour, c'est d'être aussi un hébergeur pour les contenus de ces publics. C'est-à-dire que eux-mêmes produisent des contenus, souvent en répétant chez eux ou dans le 104. Et donc, on fait une sélection, au fond, de ce qu'ils élaborent, parfois des objets extrêmement sophistiqués d'un point de vue filmique et que l'on héberge sur la plateforme du 104. C'est une forme de reconnaissance aussi de ces cultures et aussi d'une production qui peut venir d'ailleurs. Il y a une phrase de Pierre Rosanvallon qui nous sert à chaque fois, nous, de viatique à notre travail quotidien, c'est de dire si tout n'est pas égal, tout est recevable. C'est là où se joue au fond l'enjeu démocratique. C'est que nos établissements jusqu'à présent étaient des établissements qui, au fond, établissaient une distinction et une distance avec ceux qui produisaient ou qui ne consommaient pas, au fond, ce que nous proposions. Et donc, on les laissait à la porte. La question, c'est de leur dire, vous pouvez rentrer, mais effectivement, un artiste professionnel, quelqu'un dont c'est le métier et qui produit une forme sophistiquée n'est pas la même chose que votre pratique dans l'espace. Pour autant, vous pouvez être là. Vous avez le droit d'être là. Et c'est une paraphrase, hein, je paraphrase Rosanvallon, elle me semble essentielle dans le processus démocratique.
Si tout n'est pas égal, tout est recevable. Donc cette citation de Pierre Rosanvallon que citait José-Emmanuel Gonsalves, Laurence Angèle, elle recoupe aussi des débats au sein des politiques culturelles, savoir par exemple si il faut en faire plus pour le patrimoine, s'il faut en faire plus pour la culture des jeunes. Alors on ne sait pas encore de quel côté
on sait pas ce que c'est, hein,
penchera.
Le
jeune et la culture, on sait que ça va passer, en tout cas, d'après le programme d'Emmanuel Macron, ça va passer par le pass culture, même si
oui, là,
aujourd'hui...
Oui, on est du côté de l'accès à la culture et pas du côté de l'identification ou la reconnaissance de telle ou telle typologie artistique comme étant recevable ou non recevable dans l'institution.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Laurence Angèle, les caractéristiques du pass culture et nous dire aujourd'hui ce que l'on sait sur la manière dont il serait mis en place ?
Alors, il faudra poser la question au ministère de la Culture. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a une annonce qui a été faite. Ce que moi, je sais, c'est que la question des questions qu'on peut se poser sur la présence des jeunes adultes, hein, puisque je crois que ce qui est évoqué, c'était 18 ans, donc des jeunes adultes dans les établissements culturels, c'est un sujet de préoccupation naturelle dans tous les établissements. On l'a dit tout à l'heure, il y a du monde dans les institutions culturelles, il y a surtout à la tête des institutions culturelles et parmi les artistes, des personnes qui se préoccupent évidemment pour les artistes de manière totalement différente, parce que ça n'est pas forcément leur à eux de se préoccuper de cette question, mais qui souhaitent avoir du public devant leur production, donc qui se posent cette question évidemment au quotidien constamment et qui font très attention à développer des propositions qui ou des actions qui leur permettent de faire venir ceux qui ne viendraient pas spontanément. Et la question des adolescents ou des jeunes adultes, c'est une question qui est récurrente. Alors après, quelle est la solution? Ça, on va voir quel est le travail qui est fait. Je pense que la première chose que peut faire toute administration, c'est d'écouter ce que les professionnels peuvent proposer, ce qu'ils peuvent retirer de leur expérience, les témoignages qu'ils peuvent apporter de ce qu'ils ont fait pour trouver la bonne solution. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que sera la bonne solution. Ce que je peux vous dire aussi d'expérience, c'est que, par exemple, nous, à la BNF, j'ai lancé l'année dernière un pass culture qui n'a rien à voir avec celui-là, puisque c'est simplement une manière de raconter à nos publics notre histoire et la manière dont ils peuvent venir. Mais voilà, c'est un pass culture à 15 euros qui permet d'accéder à toute l'offre culturelle de la BNF et de venir en salle de lecture, bien sûr, travailler. Ça produit, quand on s'adresse au public, ça produit un effet. Il y a beaucoup plus de personnes cette année que l'année dernière qui ont acheté leur pass. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que va être le pass culture tel qu'il a été annoncé dans la campagne.
José Manuel Gonsalves, en tout cas, même si on ne le connaît pas dans les détails, ce pass culture, l'idée serait a priori de doter une génération, donc là en l'occurrence les 18 ans, d'une certaine somme d'argent. Est-ce que vous pensez que la sensibilité donc au prix, le fait donc de donner une subvention aux individus et pas aux institutions, c'est quelque chose qui peut permettre à des gens qui ne seraient pas nécessairement venus au spectacle que vous proposez? Est-ce que ça, c'est un biais qui peut être efficace pour faire venir des publics ou aller vers des publics que vous n'avez pas l'habitude d'avoir dans vos institutions?
Non, il est clair que derrière ce pass culture se pose la question de l'accès économique à l'offre artistique. De ce point de vue, on peut tous penser que c'est une bonne idée de doter à un moment des individus de ne pas être freinés par la question économique pour accéder à l'offre artistique. Donc, a priori, on pense tous que c'est une bonne idée. La question, elle est comment ça va être appliqué et quels sont les critères pour, au fond, établir l'usage de ce pass culture. Qu'est-ce qui va permettre de définir qu'on est bien dans une consommation et dans une offre artistique et pas dans une consommation au fond culturelle. C'est là où les professionnels aujourd'hui demandent à voir, non pas avec scepticisme en empêchant d'une certaine manière que ça se mette à l'œuvre, mais qu'on soit effectivement qu'on se rapproche un peu des professionnels. Il y a un peu des expériences qui sont menées depuis un certain temps et qu'à partir de là on soit en capacité d'élaborer des choses. Ça demande une fois que l'idée est lancée et qui est généreuse, et c'est le rôle d'un gouvernement, il faut préciser les choses, et ça c'est le rôle et c'est le travail de ceux qui sont sur le terrain, et cette étape-là il faut la mener maintenant rapidement.
Un dernier mot, Laurence Angèle, sur l'audiovisuel public, puisque même si vous présidez aujourd'hui la BNF, jadis vous avez eu à gérer certains dossiers dans ce domaine, est-ce que vous pensez là aussi que ce rôle en matière donc de la culture pour chacun ou pour tous, est-ce qu'il peut être amendé? Est-ce qu'il peut y avoir des progressions, des révolutions dans ce domaine?
Dans l'audiovisuel comme ailleurs, enfin c'est d'abord, je pense que les meilleures idées, c'est un instrument évidemment, c'est un instrument qui recouvre beaucoup d'enjeux. Les mieux placés pour proposer des évolutions, c'est évidemment ceux qui sont dans les maisons, qui se posent les mêmes questions et qui ont probablement, d'ailleurs je crois qu'on leur a demandé de se prononcer, d'envisager leur avenir. Ils sont les mieux placés pour envisager leur propre avenir. Voilà. Si je peux juste dire un tout petit mot sur la relation avec le public, l'enjeu économique, on ne peut pas prétendre qu'il n'existe pas. Il existe pour toute question. Je crois véritablement que ce n'est pas la gratuité, puisque c'est quand même cette question-là qui est posée aussi, que ça n'est pas la gratuité qui fait que les personnes qui ne viennent pas dans les institutions culturelles tout d'un coup viendraient. En l'occurrence, l'offre des musées est partout gratuite dans les musées publics. Et partout gratuite pour les moins de 18 ans et parfois même jusqu'à 25 ou 26 ans. Donc la question de la gratuité n'est pas la gratuité n'est pas la réponse à la question qu'on se pose.
José Emmanuel Gonsalves, Laurence Angèle, vous restez avec nous. Laurence Angèle, je rappelle le titre de votre ouvrage: Que peut la culture